Vous écoutez
RMC.
RMC.
Vas-y, très vite.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot qui est on joue comme on s'entraîne.
Évidemment.
Non, mais c'est important, Nico, parce que bien sûr, je me la raconte un peu sur le hug avec tout ça. Mais
je vais essayer d'être honnête, ce qui est déjà pas mal. L'objectivité, je sais pas ce que c'est.
Alors,
par contre, honnêteté, j'essaie de l'être.
Non, mais j'ai peut-être dansé sur Coldplay, mais je devais pas être à jeun.
20h22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Il est 21h03, merci d'être là en ce lundi soir qui annonce une semaine exceptionnelle sur RMC, vos drôles de dames, jusqu'à 22h. D'ailleurs, Polo qui parlait musique, dans le chat, pour l'instant, c'est un carton. Hein. C'est Polo qui domine avec son choix musical, la minute de Polo.
Ah, moi j'ai du lourd.
Ouais, bon, on va voir, la minute de Fred Hermel à suivre dans quelques minutes. Il y aura celle de Johan Crochet également un peu plus tard.
Tu fais une passe? Tu fais une petite passe là? Tu passes le ballon?
Je te fais une Modric, qu'est-ce qu'il y a?
Une Modric? Ah, j'ai bien reçu.
Pourquoi?
Je peux recommander mon podcast littéraire.
Ouais, vas-y, évidemment.
Ah ouais, nouvel épisode avec un grand journaliste sportif, grand supporter de la Saint-Etienne, grand spécialiste de la Saint-Etienne, Bernard Lyons, qui a écrit un roman et qui était l'invité de mon podcast Délivre RMC, à retrouver sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Allez, c'est un 1-2, je profite, il y a les podcasts Drôles de Dames, hein. Toutes les semaines, c'est votre
aussi
nouveauté de la rentrée podcast.
On parle de Rafinha dans l'Espagne.
Voilà, After Espagne, il est tout frais, After Italie également.
J'ai reçu un appel d'Allemagne aujourd'hui. Ah. Pour dire que les podcasts Allemagne, que le podcast Allemagne était exceptionnel.
Un appel de qui?
Les podcasts. D'un Français qui est à Munich.
Ah, bravo. Bravo Polo. Bravo à vous. Voilà, c'est dispo. C'est
si on arrive à faire mieux que ce qui se passe chez les locaux, c'est quand même assez exceptionnel.
Et voilà, bah, c'est à retrouver dans toutes les chaînes de l'After. Hein. Vous tapez After Allemagne, par exemple, After Angleterre. C'est toutes les semaines.
Si c'est en longueur, vos drôles de dames. Si tu vas sur rmc.fr, tu cliques sur podcast, tu as tous les podcasts aussi de la maison. C'est hyper facile à retrouver.
Vous pouvez vous abonner comme ça. Vous
il faut surtout
commenter,
s'abonner.
Les noter, n'hésitez pas. Et si vous voulez parler aux drôles de dames, vous faites le 32-16. Vous nous appelez et à 21h45, vous serez face à Polo, face à Julien, face à Fredo et face à Johan. Dans un instant, Arsenal au programme, mais d'abord un point Ligue 2, la 7e journée, Guingamp-Caen, Xavier Grimaud.
Et on atteint la 20e au Roudourou, toujours 1-0 pour les Guingampais. Le buteur, c'est Jacques Siway de la tête. Il y a eu une belle occasion encore pour Siway avec un joli renversement de jeu, le centre cette fois venu de la gauche, et Mandrea qui s'est couché pour détourner le ballon. Une occasion pour les Canets, elle était belle avec Tidiane Gomis, le jeune attaquant de 19 ans. Crochet intérieur, crochet extérieur, frappe lourde, et Enzo Basilio, le Guingampais, qui détourne. C'est un bon petit match. Pour l'instant, c'est plutôt agréable à regarder entre Guingamp et Caen. 1-0 pour les Bretons.
À tout à l'heure. Julien Laurence en Angleterre. Arsenal face au Paris Saint-Germain. C'est demain à 21h, deuxième journée de Ligue des Champions. On a laissé les Gunners aller faire match nul. Presque battre City le week-end d'avant. Ce week-end, victoire poussive contre Leicester. Est-ce qu'Arsenal est prenable ou pas pour le Paris Saint-Germain?
Ah, poussive, non. Poussive, c'est toi qui pousse un peu loin là. Quand même. Ils se sont fait un petit peu peur. Parce
ça a été long à se dessiner, quoi.
Non, ils menaient 2-0, ils avaient archi dominé la première période, ils se sont un petit peu endormis au retour de la pause, ils ont pris un but très vite sur une tête déviée, et puis après ils ont surtout pris un deuxième but magnifique vraiment de l'arrière droit de Leicester, James Justin.
Il y avait 2-2 à la 93e, c'est ça que je veux dire.
Après ils ont gagné lors du temps additionnel, mais si tu veux, si tu regardes les stats, ils ont un expected goal de 5, ils ont 36 tirs, 17 corners. Enfin, il y a pas photo, si tu veux, sur le fait qu'ils méritaient de gagner, mais oui, ils se sont fait un petit peu peur. Après, c'était pas poussif dans le jeu ou quoi que ce soit. Ils sont tombés sur un gardien de Leicester, Hermansen, extraordinaire, qui a fait le plus d'arrêts sur 45 minutes dans l'histoire de la Premier League en seconde période. Donc voilà, mais si tu veux, c'était pas poussif, même s'ils se sont fait peur. Après, est-ce qu'ils sont prenables? Je pense que tout le monde est prenable à ce niveau-là maintenant, mais ils sont quand même dans une très bonne période, ils sont toujours invaincus cette saison. Ce qui me fait le plus peur, moi, en tant que, c'est un peu mon derby finalement, Arsenal PSG, c'est mes deux équipes, c'est que Arsenal est la meilleure équipe en Europe sur les coups de pied arrêtés. Ils ont marqué 24 buts depuis le début de la saison dernière sur coups de pied arrêtés, ce qui est de très très loin le mieux en Europe. Et au contraire, on l'a vu avec le PSG, que les coups de pied défensifs, coups de pied arrêtés défensifs, c'est très compliqué pour les Parisiens. Donc je pense que ce sera une des clés du match, c'est sûr. Sans Ousmane Dembélé, ce sera encore plus fort, encore plus compliqué pour les Parisiens aussi.
Mais justement, toi, donc, qui connais bien les deux et qui, pour le coup, va être objectif, parce que c'est deux clubs que t'aimes bien, comment tu vois ce match? Parce que vu de France, on a quand même l'impression, et on parlera de Dembélé dans un instant, mais que ça s'annonce très très compliqué pour Paris quand même, hein.
Ouais, je pense que ça va être compliqué. Après, ce sera là dans quelle mesure ils vont être capables de résister au pressing d'Arsenal, qui est surtout à domicile très efficace premièrement et très intense deuxièmement. Et dans ces circuits-là de sortie de balle, par exemple, et de circulation, le fait de pas avoir Ousmane Dembélé sur la droite avec Hakimi et avec Zaïre Emery, c'est un gros problème. Parce que si, je sais pas, avec Kolo Muani, Lee, je sais pas qui va le remplacer sur la droite, mais ce sera pas la même chose du tout. Et l'un des circuits préférentiels du PSG pour sortir du pressing adverse, peu importe de qui vient le pressing, c'est souvent sur ce côté droit-là. Et là, ce sera pas le cas. Donc, je pense que Arsenal va être encore plus capable de mettre le PSG sous pression et de récupérer le ballon très haut et très souvent. Et je pense que ça va créer des gros problèmes au PSG. Donc oui, je pense qu'Arsenal est favori et logiquement favori. Pas forcément de beaucoup non plus, parce que le PSG a aussi, notamment au milieu de terrain, des qualités pour gêner Arsenal. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui font que Arsenal est le favori dans ce match-là.
Et peut-être encore un peu plus depuis l'absence confirmée aujourd'hui d'Ousmane Dembélé, écarté. Il l'a confirmé Luis Enrique en conférence de presse ce soir. Il dit, si quelqu'un ne respecte pas les obligations à faire l'équipe, qu'il n'est pas prêt. Je considère que c'est une semaine importante avec un match important et je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Par conséquent, je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour l'équipe. Qu'est-ce qu'on dit à Londres, Julien, de cette mise à l'écart?
On est très content. Déjà, j'étais avec Ian Wright cet après-midi, on a fait une émission ensemble pour la Première Ligue. Et quand il est arrivé, il m'a dit, c'est vrai que Ousmane Dembélé sera pas là demain, lui qui va aussi au match avec toute la famille Wright. J'ai dit oui, c'est vrai, il était super content, parce que même si les Anglais, on le répète encore une fois, c'est pas contre le PSG, mais les Anglais ne regardent pas le football européen, personne, nulle part, aucun club, aucun championnat.
Bah, c'est les Anglais, quoi.
Moi, c'est les Anglais,
ouais, c'est comme ça.
Ils savaient quand même que Dembélé faisait un très bon début de saison. On en parle quand même assez dans les émissions, notamment que dans lesquelles je participe outre-Manche. Mais oui, donc ils savent très bien que c'était leur meilleur joueur cette saison et que sans lui, bah, c'est pas du tout la même équipe.
Fredo, tu vas parler de Luis Enrique ou de Dembélé?
Il a raison. Enfin, c'est quelqu'un pour qui l'autorité est très importante au sein d'un club. Ça lui a fallu coûter sa place avec Messi, hein, ça. Quand il avait montré un peu d'autorité.
Il est toujours embrouillé avec tout le monde, hein, partout.
Ben ouais. Ben oui, mais c'est-à-dire qu'il avait raison. C'est-à-dire que c'était un match en janvier 95 où Messi, qui avait été rentré trop tard, plus tard que
2015,
prévu.
Ouais.
Le temps passe, Fredo. Janvier 2015, ouais. Il était revenu de vacances de Noël. Comment? J'ai 95. J'ai en Espagne en 95. En 2015,
il avait des cheveux encore.
Il avait osé mettre Messi sur le banc, et le président était venu voir derrière. Le Barça avait perdu 1-0 à la Real Sociedad. Le président dit, tu veux la tête de Luis Enrique? Demande à Messi. Messi, non, mais je veux simplement qu'il arrête de m'emmerder. Et donc, il a été obligé de se calmer. On lui a fait comprendre que le patron, c'était Messi.
Mais
il
avait osé. Là, dans cette conférence de presse aujourd'hui, Luis Enrique a redit un peu plus tard dans une réponse qu'il faisait ce qu'il voulait, il avait les mains totalement libres. Mais si demain, justement, c'était plus le cas, il serait plus à Paris.
Mais ça, c'est excellent. Mmh. Mais ça, c'est ce qu'il faut à Paris. Sincèrement. Après, Ousmane Dembélé, moi, je l'aime bien, c'est un bon gars. Mais moi, je l'ai vu sa première année au Barça. Hein. Bah, il arrivait tout le temps en retard. Vous vous souvenez?
Ouais, mais c'est loin, ça, quand même.
Bah, oui, mais enfin.
Depuis, notamment.
Comme on dit en espagnol, Kentubo Retubo.
Il est beaucoup moins blessé.
Il prend plus de problèmes. De discipline.
Non, ouais, ce serait plutôt le match contre Rennes, le dernier match.
Sait que c'est quelqu'un difficile à gérer.
Luis Enrique l'a fait sortir, il n'a pas apprécié, notamment, il y a une action précise où il aurait dû donner le ballon. Voilà, il y a eu une discussion entre les deux.
Aussi, voilà. Etc. Enfin, moi, je parle de ce que j'ai connu moi bien.
Oui.
C'est-à-dire à Barcelone, il a posé de nombreux problèmes au début. Dans sa alimentation, dans son repos, il arrivait tout le temps en retard à l'entraînement.
Enfin, oui, mais là c'est plus le cas, ça c'est en tout cas.
Non.
Bah, et même d'ailleurs sur sa dernière année au Barça.
Oui, c'était mieux. Ouais. Mais comme on dit en français, chassé le naturel,
il revient au galop.
Voilà.
Ce sera demain à 21h, hein, ce Arsenal PSG. Ce sera une soirée exceptionnelle, comme toutes les semaines, toutes les soirées de Coupe d'Europe, puisque il y aura bien évidemment Rotten sans flamme, l'after live, l'after jusqu'à minuit et demi, la libre antenne. Donc soirée européenne jusqu'à 1h30 du matin. Il est 21h11, petite pause, et on se retrouve avec les drôles de dames. On est toujours en direct sur YouTube, la chaîne de l'after, où vous plébiscitez, je vois, chers afteriens, les podcasts de vos drôles de dames. Et ben, ça fait plaisir. Merci d'être là, merci d'aller cliquer. N'hésitez pas. Dans un instant, la minute de Fred Hermel et non,
il était en retard. Mais c'est exactement ce que vient de dire. Non, parce qu'on est repris sur le chat. Il était en retard les premières années. Là, il est à Paris. J'ai dit au Barça la première année, il était en retard et après ça s'est amélioré.
C'est moi qui l'ai dit ça.
Non, mais c'est la vérité. Je veux dire, un moment, mais voilà. Donc, il a pu rechuter dans son manque de discipline. Tu crois que sincèrement, excuse-moi, je suis désolé, mais tu penses sincèrement que Luis Enrique se priverait d'un tel joueur pour un match aussi important s'il ne considérait pas qu'un manque de discipline pouvait affecter le groupe.
Il a raison. Il est totalement capable de faire ce genre de choses, même pour quelque chose de minime.
Voilà. Si Fred était au niveau des autres, il me reste encore mieux. Je fais ce que je peux, je débute.
Non, mais commence pas.
Je fais ce que je peux, je débute. Tu sais, ça fait que 25 ans.
N'hésitez pas à continuer à débattre calmement, dans le respect.
Il y en a qui ont essayé.
Et à nous appeler.
Ils ont eu des problèmes.
Dans une demi-heure, les drôles de dames.
Ils ont eu des problèmes.
Ils sont face à vous. Justement, Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet, Chevalier Las Palès.
Magnifique.
On apprécie.
Dans un avion, non. Il atterrit, il repart aussitôt.
Ah oui. J'ai l'impression que Polo
c'est comme
aussi.
Vous voulez.
Non, c'est vous qui voyez, Polo.
C'est vous qui voyez, pardon.
Si t'as l'arrêt, faut bien la faire, par contre. Ouais. Allez, dans un instant, la minute de Fredo et la Lazio au programme. On parlera également de la Bundesliga. Tiens, justement, avec Polo et ce championnat qui se dessine avec cette année beaucoup de concurrence. À tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Thibaut Giangrande.
Il est 21h16, dans une demi-heure, les drôles de dames sont à vous. Comme chaque lundi à 21h45, vous nous appelez au 32-16 pour poser vos questions à Julien Laurence, Paulo Breitner, Fred Hermel, Johan Crochet. On est toujours en direct sur YouTube, sur Direct Studio, notamment Riton écrit Salut Polo en parlant de Coldplay. Que penses-tu du groupe Knorkator? Tu connais Polo?
Knorkator?
Non, ça ne dit rien.
Bon, voilà. Il y a Azeu qui dit Thibaut, je suis dégoûté, tu fais la promotion des différents podcasts, mais tu oublies l'un des meilleurs, l'œil du Tib. Merci Azeu.
Alors, il vient de l'inventer, il n'y a absolument pas ça dans le chat.
Tiens, je te laisse vérifier sur le direct studio.
L'œil du Tib, c'est tous les week-ends matinales.
Ouais, c'est la nouvelle matinale.
Mais je sais.
Anaïs Matin.
Mais je sais, je t'ai écouté.
Exceptionnel, et n'hésitez pas.
C'est Anaïs qui a envoyé le message.
Et attends, ce week-end, tu as parlé de foot.
Alors, je le fais. C'est vraiment le principe, c'est que je parle que de foot.
Ah ben c'est ça. Non, mais t'as parlé d'un sujet que j'aimais bien et j'ai oublié. C'était quoi?
Zidane.
Zidane. Et voilà.
C'est des petites histoires.
Exactement. Voilà.
N'hésitez
avec Enzo Zidane, 29 ans, qui a arrêté sa carrière.
Et à l'écouter. Matinale. Exactement. À suivre sur RMC la minute de Fredo. On parlera également Bundesliga dans quelques secondes avec Polo et ce championnat 6 qui se dessine. Mais d'abord l'Italie. Johan, avec une équipe qui séduit depuis le début de la saison, la Lazio. Adversaire d'un club français cette semaine,
De Nice.
Et ce sera jeudi soir sur RMC. Ce sera à Rome à 18h45.
Exactement.
Mais pourquoi faire cette Lazio? C'est quoi le projet?
C'est un peu la question, parce que la Lazio part sur un nouveau cycle, évidemment, puisque ils ont laissé partir. Ils ont vendu Tyrone Immobilier, Luis Alberto est parti aussi cet été. Donc deux des trois dernières grosses stars de la Lazio, avec Milinkovic-Savic qui était parti un petit peu auparavant en Arabie Saoudite.
Tudor aussi est parti.
Oui, je ne sais pas si c'était une star, mais en tout cas, il y a un nouveau cycle clairement qui est enclenché avec un nouvel entraîneur, Baroni, qui évidemment n'a pas le CV ou la réputation même d'un Sarri ou d'un Tudor. Mais pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Baroni, à la fois à Lecce qui l'a fait remonter et qui l'a maintenu en Serie A, et aussi à l'Hellas Vérone où on lui a cassé l'équipe en deux au mercato de janvier dans une situation intenable. Il a réussi à maintenir cette équipe-là, c'était vraiment un exploit limite incroyable de Baroni. Et il a été accueilli un peu cet été avec un énorme scepticisme. On a des supporters de la Lazio qui manifestaient en disant voilà, où sont les ambitions de notre club. Baroni, c'est un mec qui joue le maintien avec Lecce et avec l'Hellas Vérone. Ils avaient été habitués quand même à Sarri pendant plusieurs saisons, ou même à Tudor qui était un très beau pompier de service. Donc il y avait aussi un certain scepticisme après donc les départs de Luis Alberto Immobilier et des recrues de joueurs qui jouer le maintien aussi, Dia à la Salernitana, Noslin à l'Hellas Vérone, donc Chauna aussi. Donc on n'avait pas des joueurs quand même qui avaient la réputation et la renommée qu'espéraient les joueurs de les tifosi de la Lazio, pardon. Et on a toujours ce sentiment avec la Lazio, c'est les années où ça va cliquer, ça va être très intéressant. C'est une équipe qui est capable de faire top 4, il l'avait fait avec Simone Inzaghi.
Où ça va cliquer?
Ouais, où ça va marcher, tu vois, où ça va prendre, où la mayonnaise prend.
Je connaissais pas l'expression. Ça se traduit en italien, peut-être. Non, c'est d'Auxerrois.
Oui,
c'est en anglais.
Ah, d'accord.
Ouais, exactement. Et donc, ces années-là, il y a la fameuse possibilité d'entrer dans le top 4. Mais sur la globalité, quelle est la position aujourd'hui de la Lazio dans le championnat italien? C'est top 6. Bordure top 6, parce que quand on fait les trois gros clubs du Nord, Inter, Juve, Milan, vous rajoutez le Napoli, la Roma, l'Atalanta maintenant, qui est une réalité claire du top 6, où est-ce qu'on met la Lazio? Quand ça clique bien, encore une fois, tu rentres dans le top 4. Et
je trouve que les premiers matchs sont assez séduisants. Alors, il y a eu des, comme toujours, dans un début de projet avec pas mal de nouveaux joueurs, avec des joueurs qui viennent d'un niveau inférieur, qui, à qui il faut donner cette exigence au quotidien, cette régularité aussi des grands matchs. C'est ce qu'ils font. C'est ce qui fait, pardon, les grands joueurs, cette régularité-là. Il y a toujours des hauts et des bas. Il y a des très hauts et des très bas. Le match à Udine était catastrophique. Le match contre l'AC Milan était très bon. Donc c'est 10 points en 6 matchs. On n'est pas en train de parler d'un parcours de champion ou tout ça, mais
ils ont gagné 3-2 ce week-end au Torino. Ouais.
Exactement. Et le match est vraiment bon de la part de la Lazio. Le Torino qui était quand même en tête. Donc ils ont joué quand même de mémoire le Milan. Ils ont joué les deux surprises de ce début de saison avec l'Udinese et le Torino.
Ah, juste excuse-moi. Quand on regarde sur son téléphone,
c'est plus de mémoire.
De mémoire, ça marche plus.
Mais justement, au début, j'ai fait de mémoire, et là, après, je vérifiais okay. sur la Fiorentina. Donc, il y a eu quand même des matchs durs, quoi, des confrontations, des match-ups un peu difficiles, et ils s'en sortent plutôt bien. Et en plus, j'aime bien le jeu, cette capacité à garder le ballon, qui est un héritage de Maurizio Sarri, le jeu de position, mais aussi ce qu'a amené Baroni, ce qu'il est en train d'amener, d'inculquer, d'intégrer dans cette équipe-là, c'est une plus grosse dose de verticalité. C'est-à-dire être capable de garder le ballon, oui, mais pour amener de la verticalité et être capable au bon moment de casser les lignes de pressing, de toucher l'attaquant, d'aller chercher les joueurs de côté pour des 1 contre 1. Et en plus, il y a des vrais bons joueurs dans cette équipe-là. Quand vous regardez le secteur offensif, Zaccagni, Castellanos, Boulaïdia qui fait un gros début de saison, c'est intéressant. Isaksen, le Danois, c'est intéressant. Chauna qui arrive un petit peu derrière. Il y a du talent. Et en plus, on a maintenant une sorte de facteur X. Depuis qu'il a commencé à jouer avec la Lazio, ça va faire rire beaucoup de Marseillais ou du supporter de la Ligue 1. C'est Nuno Tavares. Nuno Tavares, incroyable. Qui a le côté bulldozer et qui parfois est un peu maladroit. Souvent, diront certains.
Préviens-les que ça va durer 3 mois, par contre.
Ouais, possible, possible. Mais tu sais, il y a aussi une chose, c'est que on le voit, la différence de physique entre Nuno Tavares et les autres. Parfois, sur certains matchs, même contre le Torino, j'ai eu l'impression que c'était un adulte avec des enfants. Il est ultra puissant. Il domine physiquement. Il va vite. Et en plus, pour le moment, techniquement, sur toutes les techniques de centre, centre à ras-terre, centre à mi-hauteur, centre devant le but, centre au deuxième poteau, il est là et il fait des très bons centres. 4 passes décisives sur ses 4 premiers matchs. La Serie A n'a jamais connu ça depuis 2004. Ça fait 20 ans. Depuis qu'ils ont la data, depuis qu'Opta la data. Ça fait 20 ans qu'aucun joueur n'a réussi 4 passes décisives sur ses 4 premiers matchs en Serie A.
Le problème, c'est qu'il peut être à 4 toujours dans 6 mois, quoi.
Possiblement. Mais pour le moment, en tout cas, il apporte. Et quand on rajoute Guendouzi, qui a toujours cette importance-là au milieu de terrain, on est vraiment sur un effectif, je trouve, de qualité. Le Tito est accusé de pas assez recruter, de pas mettre assez d'argent. Avec l'argent qu'il a mis, moi je trouve que l'effectif est de qualité et le jeu pour le moment est assez séduisant.
Les Niçois sont prévenus, ce sera jeudi à 18h45 pour cette deuxième journée de Ligue Europa. La Bundesliga sur RMC à 21h23, on a parlé tout à l'heure, Polo, du Topspiel, ce Bayern. D'ailleurs, c'est un peu les deux seules équipes dont on avait parlé la saison dernière, mais là... On se dirige peut-être, Polo, vers un championnat totalement différent avec plein d'outsiders qui sont là, quoi.
Bah oui, parce que en fait, depuis le début de la saison, on a aussi parlé que deux choses. C'est un, est-ce que Leverkusen est capable de refaire sa saison du siècle de l'année dernière? Personne n'y croit. Et puis surtout, la réaction qu'on attendait du club munichois et ce qu'ils sont en train de faire. Mais on oublie un peu les autres. Et le 1-1 de ce week-end, évidemment, ça favorise Leipzig qui a éclaté Augsbourg. Mais à la rigueur, ils avaient fait 0-0 contre Saint-Pauli le week-end dernier. Donc c'est pas forcément parlant. Mais si tu rajoutes ce qui s'est passé à Wolfsburg, le 2-2 de Stuttgart avec des erreurs d'arbitrage dramatiques, d'ailleurs j'aurais pu en faire ma minute, l'arbitre FIFA Jablonski est souvent interrogé le lendemain dans des émissions spécialisées pour le football et on lui demande presque de faire des contritions. Donc Fred et moi on commence à vieillir, moi les témoignages comme ça, les contritions en place publique, si tu veux, ça me rappelle des mauvais souvenirs d'histoire, mais c'est des choses comme ça. Et moi, ça me plaît pas du tout ce qui se passe en Allemagne par rapport à ça. Évidemment, la victoire de Francfort à Holstein Kiel après leur couac en Europa League, le 3-3, alors qu'ils menaient 3-1 après 86 minutes. Là, c'est pareil, c'est inconstant, mais ils sont deuxièmes ce soir. Dortmund, qui a encore dû être mené 2-0 dans le petit derby contre Borum, qui finalement l'emporte 4-2 avec un doublé de Guirassy. Et puis, je crois que j'ai cité les 6 que je voulais. Ouais, Leverkusen, Dortmund, tac-tac. Oui. Et donc, finalement, on risque d'avoir un championnat beaucoup plus serré qu'on veut le voir, surtout par rapport au niveau de certaines équipes. On a un peu parlé cette saison de Stuttgart déjà. L'inconstance de Francfort, de Leipzig et de Dortmund, s'ils arrivent à régler ça, je pense que ça peut faire un championnat 2024-2025 assez exceptionnel et qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
Et ce sera à suivre tous les lundis avec toi, Polo, dans Génération After. Spécial drôle de dame. Dans un instant, on parle de l'Espagne, la première défaite du Barça en Liga. On parle également de l'Angleterre avec le quadruple exceptionnel de Cole Palmer en une seule période. Mais d'abord, attention, il a mis la barre haut tout à l'heure. Il s'est emballé, il nous a dit « j'ai du lourd avec ma musique ». Tout de suite, c'est la minute de Fred. C'est Shakira ?
Ben ouais !
Ah ben oui !
Bravo !
Bravo Fredo ! Bah t'as gagné.
Ouais, ben c'est ouais. Gagné. Non, Shakira. Ah oui. Aïe Telejo Madrid, je te laisse Madrid. Et dis notamment avec ta bouche au goût d'anis, parce qu'on boit beaucoup de l'anis à Madrid.
Ah.
Voilà, donc très belle chanson de Shakira, qui est une chanteuse fabuleuse. Moi j'aime beaucoup, beaucoup. Ah ouais, c'est vraiment très bien.
Alors,
c'est pas de la grande musique, mais c'est la musique extrêmement bien produite. Les paroles sont très sympas, les musiques sont bien.
Premier tour de Roland Garros. Hein.
Non, et Shakira, pourquoi j'ai choisi ? Parce maintenant. Qu'elle est colombienne. Et je vais vous parler du joueur colombien le plus connu au monde, James Rodriguez. Et non pas James, hein, vous le savez maintenant, James Rodriguez. Alors James Rodriguez qui joue au Rayo Vallecano.
Oui, c'est vrai.
Alors, il n'est pas venu pour le projet sportif, vous en doutez bien. Il n'est pas venu pour l'argent, vous en doutez bien, parce que le Rayo, ils n'ont pas une thune. Même s'il a un salaire correct, mais enfin, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'il a pu gagner au long de sa carrière. Mais comme beaucoup de joueurs passés par l'Espagne, je vous rappelle qu'il a joué au Real Madrid, et surtout les joueurs passés par Madrid, eh ben, il veut absolument revenir à Madrid, et il a eu raison. Jouer au Rayo, ça lui permet encore de s'amuser, de rester en forme, d'être un peu compétitif, et surtout de vivre dans une des plus belles villes du monde, en tout cas, pas pour vivre. Et pourquoi James, on en parle? Parce qu'il était titulaire ce week-end pour le petit derby entre Rayo Vallecano et Leganés, un partout. Et James était titulaire pour la première fois, il a joué 63 minutes, et il a été élu MVP du match. À 33 ans, une expression espagnole dit qu'en tubo retubo, qui a retenu, et là toujours, il reste un joueur avec une classe exceptionnelle, avec une carrière malheureusement qui n'a jamais été à la hauteur du talent qu'il avait au départ.
Fredo, merci pour cette minute. L'histoire était pas mal, mais là vraiment la musique.
Allez,
était vraiment...
plus fort Polo.
Ah, je vais rentrer à 22h, je vais ouvrir Spotify, je vais mettre le best-of de Shakira, je pense. Whenever, wherever, c'est magnifique. Waka,
mais c'est encore mieux en espagnol quand je joue en espagnol.
Ouais, je comprends pas les paroles. Allez, dans un instant, l'Espagne avec le Barça qui a été battu pour la première fois en championnat. On va parler également du quadruplé de Cole Palmer. La minute de Johan Crochet. Alors là, maintenant, la barre est tout là-haut. Johan, bonne chance. Et d'abord, un détour par le direct. La 7e journée de Ligue 2, Guingamp-Camp, Xavier Grimaud.
La 43e, toujours 1-0 pour les Guingampais. Le buteur, c'est Jacques Sioué. La 6e, c'est un moindre mal. Hein. Pour les Canets, il y a beaucoup de frappes. Guingampais, dans une frappe de Grieb, deux frappes de Brighton Labo, une frappe de Sioué qui a trouvé le poteau de Mandrea. Et là, attention, il y aura peut-être un rouge pour un Guingampais où il frôle la correctionnelle avec une semelle qui mériterait peut-être un deuxième jaune. A priori, l'arbitre ne va pas le sortir. Donc Guingamp devrait rester à 11 et Guingamp est devant à une minute de la mi-temps. 1-0 pour les Guingampais face aux Canets.
Allez, 21h28, je rappelle le 32-16. Si vous voulez faire face aux drôles de dames dans un quart d'heure, c'est votre moment. Les drôles de dames seront à vous. A tout de suite sur RMC Génération After, spécial drôle de dames jusqu'à 22h.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Thibaut Giangrande.
C'est lundi soir, c'est Drôle de Dame sur RMC, comme toutes les semaines, 20h, 22h, Génération After spécial Drôle de Dame, exceptionnel ce soir pour lancer une magnifique semaine européenne qui nous attend sur RMC tous les soirs, tous les matchs, les afters, les libres antennes en direct jusqu'à 1h30 avec vous tous au 32-16. D'ailleurs, le 32-16, vous pouvez le faire dès maintenant, si vous avez des questions à poser, si vous voulez interpeller nos Drôles de Dame, elles sont toutes à vous d'ici une dizaine de minutes. D'ici là, la minute de Johan Crochet, on va parler également Premier League avec un quadruplé exceptionnel de Cole Palmer en une seule mi-temps. Mais d'abord, Fredo, le Barça a perdu pour la deuxième fois, puisque le Barça était tombé à Monaco, mais oui. Pour la première fois en Liga.
Oui, jusqu'ici, il n'y avait que des victoires. Le Barça qui semblait imprenable. Ben, moi, j'adore Hansi Flick. Franchement, je trouve qu'il fait un travail merveilleux. Mais là, son inexpérience en Liga, son manque de connaissance de la Liga, lui a coûté très cher. Cette défaite 4-2 à Pamplune. Alors, Pamplune, c'est la Navarre, le club d'Osasuna.
Osasuna, ouais.
Et, Alors, il est évident, tu l'as évoqué tout à l'heure, mais on va le rappeler, que la défaite à Monaco l'a perturbé et que le match contre les Young Boys de ce mardi est déjà essentiel pour le Barça en Ligue des Champions. Il a fait tourner. Alors, on sait qu'il y a beaucoup de blessures du côté du Barça, mais il a fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire, c'est mettre sur le banc et Yamal et Rafinha, qui sont les deux joueurs en forme, les deux joueurs les plus dangereux.
D'ailleurs, Rafinha, podcast Affaire Espagne, tout neuf aujourd'hui, vous irez écouter ça à partir de minuit.
Quand tu vois le 11 du Barça, c'est Iñaki Peña, le gardien, puisque Ter Stegen est blessé. Tu as quand même beaucoup de jeunes, des noms que beaucoup de supporters de foot en dehors d'Espagne ne connaissent pas. Bon, t'as Jules Koundé, t'as Sergi Dominguez, Pau Cubarsí, Martin, Torre, Garcia, González, Pedri, Torres, Ferran Torres, Lewandowski et Pau Victor. Et le problème, c'est que s'il y a bien un endroit où il faut pas faire tourner, c'est Pamplune. C'est historiquement le stade de Sadar, c'est compliqué pour les grosses équipes. Et c'est un stade où le public pas, est très puissant et très très près. Il pousse beaucoup.
C'est Louis II, quoi.
C'est très compliqué. On sait très bien que c'est dans l'année pour les grosses équipes, c'est toujours un déplacement compliqué. Même quand Osasuna, en plus, ils sont dans la première partie de tableau. Ils sont très bien là.
Oui.
Mais ils étaient
Osasuna septième là.
Ouais. Et ils étaient. Bah, je crois que c'était aussi septième avant. Ou c'était huitième ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, ils étaient très bien avant le match. Donc, et même quand ils sont en deuxième partie de tableau, ça reste un déplacement compliqué. Faire tourner, on comprend avant un match de Ligue des Champions qui peut être déjà important. Mais faire tourner autant, surtout en te privant des deux côtés là, c'est une erreur qu'il a commise. Alors, on peut
On comprend aussi que ça va être bien vivement que Chesney arrive, quoi. Peña, a priori, c'est pas Lounine quand même. Il fait pas.
Ouais, mais là-dessus, ouais, je suis pas sûr qu'il soit vraiment coupable sur les buts, quoi. Après, Iñaki, c'est pas un très grand gardien. Il a joué beaucoup de matchs l'an dernier parce que, déjà, Ter Stegen était blessé. On a bien vu qu'il ne pouvait pas être le remplaçant naturel. Donc, mais on a dit suffisamment de bien d'Hansi Flick pour dire du mal, voilà. C'est normal. T'arrives dans un nouveau championnat. Tu connais pas forcément l'histoire de ce championnat. Voilà, tu diras, Osasuna, c'est bon. Ce qu'on lui reproche en Espagne, c'est d'avoir trop fait tourner. Et lui dire, mais en fait, pourquoi tu n'aurais pas, t'as pas commencé histoire de mener avec ces mecs-là? Ouais,
et tu les fais sortir après. De jeu.
Voilà, ils sont entrés, c'était trop tard parce que, et je termine là-dessus, Osasuna, avec le public et la connexion avec le public, etc., et leur côté très, je veux dire, viril, on fonce, etc., Osasuna, c'est une équipe qui, une fois qu'elle commence à gagner, tu vois, ils sont dans une ambiance comme ça, où ils sont difficiles à retourner. Et là, ils ont joué au-delà de leur possibilité. Il y a des buts qui sont magnifiques, hein, d'ailleurs, du côté d'Osasuna.
Le Barça qui reste leader, 7 victoires et donc une défaite après 8 journées, 3 points d'avance sur le Real.
Oui, le nul du Real les a servis, quelque part.
Exactement.
Après leur première défaite.
En Angleterre, Julien, historique, moment historique ce week-end pour Chelsea. Alors non pas le fait qu'ils aient gagné un match, parce que ça leur arrive un peu plus cette saison, mais quadruplé de Cole Palmer.
Ouais, extraordinaire performance, déjà historique, tu l'as dit, parce que jamais dans l'histoire de la Première Ligue, donc depuis sur les 30 dernières années, hein, mais quand même, aucun joueur n'avait marqué 4 buts en première période. Il l'a fait en l'espace de 20 minutes, quasiment, un pénalty, un coup franc exceptionnel. Une finition assez facile sur un service de Nico Jackson et ensuite un bon ballon en profondeur de Jadon Sancho. Il a fini au premier poteau, pied gauche. Un joueur extraordinaire. On le savait l'année dernière, on avait vu ce qu'il était capable de faire. On se demandait quand même s'il allait être en mesure de reproduire une saison là cette année comme celle de la saison dernière dans une équipe plus structurée, dans une équipe aussi meilleure. Mais l'année dernière, il s'est si bien exprimé parce qu'il y avait aussi, c'était un petit peu du n'importe quoi tactiquement de la part de Pochettino. Et donc, un joueur de rue comme lui, tu lui donnes le ballon, il peut faire ce qu'il veut, il a beaucoup de liberté, ça va forcément marcher. Là, dans un jeu un peu plus structuré, on va dire, entre guillemets, en tout cas avec Maresca, on se demandait s'il allait avoir la même efficacité. Et finalement, c'est une équipe de Chelsea qui est super intéressante à regarder. Vraiment belle à voir jouer, qui va tellement vite vers l'avant avec Madueke, avec Sancho, avec Palmer, avec Nico Jackson. Et c'est vrai que dans ce jeu-là, dans ce système-là, où ça va très vite vers l'avant, où il a encore beaucoup de liberté, C'est un plaisir à voir jouer. C'est donc 6 buts maintenant et 4 passes d'ess, puisqu'il avait déjà fait un match à 4 passes d'ess aussi contre Wolverhampton il y a quelques semaines. Donc c'est quand même un match à 4 passes d'ess, un match à 4 buts en première ligue pour lui en l'espace de 6 journées. C'est assez incroyable. Et moi j'adore parce que c'est un joueur de rue, et les Anglais, on produisent pas ce joueur de rue. On parlait de Griezmann tout à l'heure, mais voilà, à part quelques-uns comme un, on l'a dit, Gascoigne, comme un Hoddle, comme un Wilshere peut-être, comme un Rooney, ils ont pas, c'est pas leur culture de jouer dans la rue, c'est pas ce qu'ils font.
Cole Palmer, c'est la street, quoi.
Ouais, et alors, et lui, c'est ça, mais tu le vois de toute façon comment il joue, hein, et puis tu vois bien tout ce qui l'intéresse de toute façon, c'est ça, c'est la technique, c'est le ballon, c'est jouer comme il le faisait, j'imagine, quand il était plus jeune avec ses potes dans la rue, etc. Mmh. Donc, c'est ça, et le, peut-être pour finir, le plus marquant, on va dire, entre guillemets, c'est qu'à la fin du match, on lui a dit bravo, 4 buts, c'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, ça n'avait jamais été fait. Il dit ouais, mais ça aurait dû, j'aurais dû marquer 6 ou 7. Mmh. Et c'est vrai qu'il a, il a deux grosses occasions pour marquer deux autres buts. Il fait aussi deux, il crée deux ou trois grosses occasions pour les autres. Donc, il aurait dû aussi finir avec deux passes d'aise facilement. Voilà, c'était un match parfait contre une équipe de Brighton, de notre ami Fabian Hürzeler, mon polo, qui a été très, très naïf sur ce coup-là, avec une ligne défensive tellement haute que c'en était à un point ridicule.
Ouais. Je te le reprends.
Oui, je te le redonne, parce que là, il a un peu cru que c'était la Bundesliga quand même, hein, sans faire offense à la Bundesliga. Mais tu vois, là, il s'est dit la ligne, on va jouer haut, parce que. Voilà.
Bon, et Chelsea, d'ailleurs, qui est quatrième de première ligue.
Quatrième, hein.
Ouais.
Sans faire de bruit, ouais, tranquillement, ouais, ils sont là, ouais. Ça se met en place.
Et combien de joueurs, là? 45, ou ils en ont moins, combien?
Ah, ils en ont encore beaucoup, mais là, c'est en train de se régler un petit peu, dans le sens où on sait plus ou moins l'équipe titulaire. D'ailleurs, on a fait un très beau podcast anglais sur Chelsea avec Christophe Lelichon et Jérôme Sillon, que vous pouvez écouter d'ailleurs, où on revient là-dessus d'ailleurs. Et voilà, c'est bien. Alors quatrième, je sais pas s'ils y resteront, parce que on a vu aussi, par exemple, qu'ils ont concédé beaucoup d'occasions. Ils ont concédé deux buts sur deux grosses erreurs de Robert Sanchez, leur gardien. Donc tout n'est pas parfait, loin de là, surtout défensivement. Mais offensivement, ils se créeront des occasions contre n'importe qui.
Il est 21h40 dans un instant. Les drôles de dames sont tout à vous. 32-16. Vous nous appelez, vous êtes en direct sur RMC pour venir poser vos questions, interpeller les drôles de dames. Mais d'abord, la dernière minute du jour. Attention, c'est la minute de Yoann Crochet. Et on est sur du lover. Tu lances? Pas ce soir, Fredo. Je suis pas disponible.
Roma Capoccia, Antonello Venditti, qui est un supporter de la Roma, romain. C'est lui qui a fait l'hymne de la Roma, qui a fait aussi le Grazie Roma, qui est diffusé à la fin des matchs quand la Roma gagne. Chanson pour évidemment parler de la Roma et d'un petit jeune, Nicolo Pizzilli, qui a marqué ce week-end, qui a permis à la Roma de ne pas entrer encore un peu plus dans la crise après le départ de De Rossi, les sifflets des supporters, l'équipe qui est très contesté encore une fois à Rome. Et c'est un nouveau jeune joueur sorti du centre de formation de la Roma. Ça fait beaucoup de milieux de terrain d'ailleurs. Beaucoup de milieux sortent de cette équipe-là, de ce centre de formation-là. Je pense à, évidemment, sur les dernières années, hein, les plus récentes, entre De Rossi, Pellegrini, Fratesi, Florenzi, qui était aussi un milieu de terrain avant. On a maintenant Pizzilli, qui est un jeune de 20 ans, qui a la tête bien sur les épaules, qui est pas trop fan des réseaux sociaux, Instagram. On lui dit comment tu vas fêter ce but-là, bon, je sais pas, je vais manger avec mes parents, et puis voilà. Quelqu'un de très concentré sur sa carrière, qui pouvait partir en début de saison, mais Daniele De Rossi a dit non, il reste avec nous. Il avait déjà marqué avec Mourinho en Europa League. Et là, il a fait en plus une célébration tout fou, il n'en revenait pas. Voilà, un bon coup de fraîcheur dans une équipe qui est en grande difficulté. La Roma et un autre Romain, Romanista, qui peut-être un jour deviendra le capitaine de cette équipe-là, perpétuant la longue tradition qu'on a évoquée dans le podcast After Italy avec Jérôme Sio et Riccardo Fatti.
Merci beaucoup, Johan, après avoir dansé sur Shakira. Fin de soirée.
Bah oui, c'est là où on a les lumières, tu sais.
Chanson de 1972.
Eh oui, on a jamais capté que c'était pas tout.
Venditti, ouais, bien sûr. Il vient souvent en match. Quoi.
Et puis voilà, derrière, on nous balance ce générique dans les oreilles. C'est agressif. Là, j'étais à deux doigts de proposer à Johan de le raccompagner. Pff, terrible.
C'est pas son genre.
Dans un instant, c'est vous qui avez la parole sur RMC. C'est le 32-16. Vous nous appelez, vous venez vous poser vos questions au drôle de dame. Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet sont tout à vous. A tout de suite sur RMC.
RMC, 20h-22h, Génération After,
Thibaut Giangrande.
Merci d'être là avec les drôles de dames sur RMC jusqu'à 22h. Ensuite, ce sera l'after avec Nico Jamin, avec Daniel Riolo, Walid Acherchour. Il sera bien évidemment question du séisme du jour, de la tristesse qui nous a tous envahis à l'annonce de la retraite internationale de Griezmann. Et bien évidemment, la mise au banc de Ousmane Dembélé par Luis Enrique. Rendez-vous à partir de 22h. D'ici là, les drôles de dames sont là et elles sont pour vous. Les drôles de dames face aux auditeurs, vous nous appelez au 32-16 et vous venez poser vos questions à Apollo, à Julien, à Fredo ou à Johan. Et on a justement Guillaume qui nous a appelé au 32-16. Salut Guillaume.
Salut tout le monde.
Sois le bienvenu dans Génération After. Guillaume, supporter de Chelsea, c'est ça?
Et absolument.
On vient d'en dire un mot, on a parlé de Cole Palmer et tu as une question pour Julien?
Oui, absolument. Bonsoir Julien. Je voulais savoir ce qu'il pensait un peu de la patte Maresca, dans le sens où on sent qu'il a ramené pour moi la petite flamme qui manquait, ou peut-être la pièce manquante aujourd'hui, où on sent qu'il a réussi à instaurer son identité, éventuellement un système de jeu. Et voilà, alors est-ce que c'est juste les prémices des tout débuts et puis il faut pas trop s'enflammer, ou est-ce que vraiment il y a quelque chose qui se crée et qui peut être vraiment très agréable pour la suite?
C'est une bonne question. Ouais. Alors dans le sillage de Cole Palmer en plus, qui est une vraie locomotive pour cette équipe-là. Et il y a des choses vraiment très intéressantes. Moi, j'aimais beaucoup la saison dernière Maresca. Je pense que le club l'a pas aidé cet été avec tous les mouvements qu'on a connus, les achats, les ventes, le groupe à 40 000 joueurs qu'on a plusieurs fois décrit, qui n'était pas du tout de la faute de Maresca, le pauvre, qui voulait juste travailler en paix avec les joueurs qui voulaient, en tout cas les positions, les postes qu'il voulait. Et les joueurs avec une identité particulière pour son style de jeu à lui. Et donc je pense qu'il s'en est très bien sorti, même si ça n'a pas été toujours génial, ça n'a pas toujours été parfait non plus. On l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, je ne sais pas si tu as entendu, sur le quadruplé de Palmer, où il y a encore beaucoup d'occasions concédées contre Brighton quand même. Tu vois, défensivement, ouais, ça a été compliqué parfois. Ils sont assez exposés, parfois défensivement. Mais moi, je trouve qu'offensivement, en tout cas, il y a de très très bonnes choses. Contre West Ham, rappelle-toi, ils se sont très bien adaptés à la défense à 5 adverses. Ils ont piégé notamment cette défense à 5-là, parce que son plan de jeu à Maresca était parfait. Donc il y avait vraiment des bonnes choses. Après, j'ai regardé tout à l'heure, il va y avoir quand même pas mal de tests où ils jouent à un moment, ils vont jouer Liverpool et Arsenal, je crois, et Newcastle. Enfin, ils ont des séries de matchs un peu plus compliquées qui vont arriver là en octobre et en novembre. City, ils ont déjà joué, mais c'était la première journée. Mais il me semble qu'ils ont quelques comme ça des matchs un peu compliqués d'affilée à gérer. Donc on en saura un petit peu plus à ce moment-là. Mais n'oublie pas aussi qu'ils jouent quand même une Coupe d'Europe en bois, où un Cole Palmer, par exemple, est pas sur la liste de l'effectif. Donc ils vont pouvoir reposer des joueurs clés parce que c'est des matchs qu'ils vont gagner facilement, même avec une équipe B. Donc non, moi je trouve que c'est vraiment, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve que c'est vraiment intéressant pour l'instant.
Guillaume, t'es d'accord?
Oui, je suis relativement d'accord avec ça. Moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est qu'il a l'air d'avoir pas changé énormément de choses, mais ne serait-ce que Palmer, de le remettre au centre. Et ouais. Parce qu'en fait, initialement, Enzo, il menait le jeu, mais beaucoup, en étant légèrement devant la défense, ou pas assez devant en tout cas. Et ce qui fait que maintenant, t'as un créateur de jeu qui vient être derrière, et en même temps, par Palmer, qui est capable de créer des choses avec la vitesse sur les côtés. Enfin, voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Je trouve que c'est nettement plus équilibré. Et c'est vrai que défensivement, il va nous manquer une ou deux pièces maîtresses. Mais ça veut dire encore des joueurs, mais c'est pas ce que ça veut dire. Mais voilà, aujourd'hui, quand tu vois l'autorité, il arrive, il dit, moi, c'est 23 joueurs, moi, les autres, je les connais pas.
Je m'entraîne
pas avec eux, etc. Enfin, voilà, moi, j'ai l'impression qu'il les prend sur la table et qu'on l'écoute.
Merci, Guillaume, en tout cas. À bientôt, j'espère.
Bah, de rien, avec plaisir.
Bye bye. À très vite. Ciao. Tiens, un petit coup d'œil sur le résultat du soir. 1-0 pour Villarreal face à Las Palmas. C'est la mi-temps. 3-0 pour Bournemouth face à Southampton. C'est la mi-temps également. Cagliari mène 1-0 à Parme, 48e. Et Guingamp reçoit Caen. C'est la 7e journée de Ligue 2. Xavier Grimaud est au Rodoro.
Oui, c'est reparti en deuxième depuis une minute. Le gros tacle de Yann Mvila, là, qui a pris tout sauf le ballon. Il a pris un jaune, Yann Mvila. 1-0, et c'est logique, hein, ce score. Il devrait même être plus lourd pour les Guingampais. Un seul petit tir seulement pour le Stade Malherbe de Caen. La 47e, 1-0 pour les Bretons, qui pour l'instant remonteraient à la deuxième place, quatrième, mais deuxième, au même nombre de points que Grenoble et Dunkerque.
Pas mal, le Gareth Southgate français. Julien nous appelle au 32-16, supporter du Réal. Salut Julien.
Bonsoir. Alors, j'ai une question pour Fred, qui ne concerne pas le Réal, mais ça concerne Séville. En fait, j'ai déménagé à Séville et je suis allé au stade il y a 2 semaines contre Getafe.
Donc au Séville.
But de la légende Navas. comme tu as pu en parler la semaine passée.
Exactement.
Et en fait, j'avais une question. Quand je suis arrivé, le président n'a fait que se faire huer et il y avait des pancartes qui l'incitaient à quitter la ville. Et donc, du coup, j'ai demandé un peu aux alentours ce qui se passait et tout le monde le déteste. Et je voulais savoir si tu avais des nouvelles le concernant.
Alors, il faut savoir que le président actuel s'appelle José María del Nido, fils de l'ancien président José María del Nido, avec qui il est en guerre. Parce qu'en fait, le Séville n'appartient pas à ses socios, ça appartient à des gens. Donc, une partie des actions appartient au père. Je crois que c'est 35% au père José María del Nido, qui a fait 3 ans de prison pour des malversations en dehors du foot, mais enfin, voilà. Truc de construction, tu sais, de BTP, etc. Ah. Ça arrive. Il était président jusqu'en 2013. Et donc, il y a deux camps. Il y a le camp d'un côté du père du président actuel, et l'autre camp, il y a l'ancien président José Castro, qu'on appelle Pepe Castro, qui est allié avec le fils, qui s'appelle José María del Nido, et qui a été élu au mois de janvier dernier. Donc, en fait, il y a deux camps qui possèdent chacun des actions. Et qui se battent pour la présidence. En fait, tout simplement, la moitié des gens sont avec une partie, l'autre moitié avec l'autre. Mais en gros, la plupart des gens en ont marre. Et les mauvais résultats sur le terrain, ils viennent aussi d'un désordre institutionnel qui dure depuis de nombreuses années. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi que c'est beaucoup d'argent aussi. Quand tu es président de Séville, tu es salarié. C'est pas comme les présidents du Real ou du Barça où tu es en fait tu es un président d'association, tu gagnes pas d'argent. Là, tu es payé. Donc c'est un poste qui plaît beaucoup. C'est un poste de pouvoir et un poste où on gagne de l'argent.
Alors, j'ai l'impression que Julien il a voulu rentabiliser son 32-16. T'as une question sur City, c'est ça, pour Julien Laurence?
Tout à fait. Allez, j'en avais une. Merci d'abord après pour sa réponse.
Avec plaisir.
Ensuite pour Julien, en fait, j'ai regardé le match du coup de City ce week-end contre Newcastle et en fait j'ai vu, comme l'avait dit l'autre fois j'allais, une équipe de baby-foot contre une équipe de handball, c'est-à-dire 10 derrière et de la possession, mais rien sur les côtés. On essaie de trouver une passe magique dans l'axe, mais il n'y a rien qui vient. Et je me suis dit, c'est bizarre, Guardiola, ça fait 2 fois qu'il lui arrive la même chose, il ne trouve pas de solution. Donc je voulais savoir si là-bas en Angleterre, l'after anglais, est-ce que là-bas on lui tape dessus ou pas?
Sur Guardiola, tu veux dire?
Tout à fait.
De pas réussir à.
Alors déjà, ils ont pas l'after comme nous on a. Ils ont rien qui nous arrive même pas à la cheville.
Il y a qu'un after de toute façon.
Non. Même si ils ont été moyens. T'as raison à Newcastle samedi midi. En plus, ils ont été gênés par le pressing adverse. C'était assez plat finalement dans la performance. Non, il est pas du tout critiqué, non, pas du tout. Mais même si on a eu des choses à redire, hein, après, notamment le match contre Arsenal aussi.
Voilà, Julien.
Ok, très bien. Merci.
Salut. C'est bon, t'as pas une question pour Polo, une autre pour Johan, on fait pas le grand chelem ce soir.
Il fait que les grands championnats,
Non, il a fait l'Espagne.
Qu'est-ce qu'il a dit? Les Anglais.
C'est pas parce que ça a
baissé. Les Anglais n'ont pas Jeanne d'Arc non plus.
Bon, à bientôt Julien, merci d'avoir été là. Merci les drôles de dames. Ah, on a un but, Xavier Grimaud.
L'égalisation, Canès, signé Alexandre Mendy. Ouais, joli but, effectivement. Il est bien seul, hein, quand même, Mendy, sur un coup franc tiré par Yalem Villa. On est à une trentaine de mètres et effectivement, le coup franc est beau. Et la tête de Mendy, tout en extension. Là, il faut avoir des bons abdos pour monter aussi haut et placer cette tête croisée qui termine dans le petit filet de Basilio. Un partout entre Guingamp et Caen, ça leur pendait au nez, hein, aux Guingampais. Ils ont eu beaucoup d'occasions pour corser l'addition en première période. Désormais, tout est à refaire. Un partout, la 51e.
Merci Xavier. La suite de ce match est dans l'after. Dans un instant, immense merci aux drôles de dames. Polo, Julien,
un plaisir.
Fredo, Johan, partagé. On vous retrouve de toute façon tout au long de cette semaine, hein, avec cette semaine européenne qu'on a bien lancée ce soir. La Ligue des Champions, la Ligue Europa. Vous serez là jusqu'à tard dans la nuit sur RMC dès demain. Dans un instant, c'est l'after. Nico Jamin, Walid Acherchour, Daniel Riolo. Bonne soirée sur RMC. Ciao tout le monde.
Génération After.